Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans lieu ni maître ni publicité. Et vous êtes sur Jeudi Noir. Ce soir, c'est Michel qui vous parlera de la nature. Michel va nous présenter un livre qui s'appelle « La nature existe ». Donc c'est
Il faut dire quand même quelques mots sur ce magnifique morceau qui avait été sélectionné par José auparavant.
Donc c'est un morceau de Garcia qui s'appelle « Européen, tes carottes ». Voilà.
Et le sens sibyllin mystérieux de ce message se révélera progressivement au cours de l'émission.
Oui, parce qu'on va peut-être parler de carottes en partie dans ce livre, c'est ça Michel?
Oui, dans un livre de Garcia.
De Renaud Garcia et de Michel Blais, donc, qui est paru très récemment, en février 2025, donc, aux éditions L'Échappée. Donc... Je vais laisser Michel présenter les Naturaliens.
Bah, les Naturaliens, pas tout de suite peut-être. Alors, donc, ce livre, donc, La nature existe, de Michel Blais et Renaud Garcia. Alors, Blais et Garcia sont deux philosophes. Hein. Blais, c'est plutôt un spécialiste de la philosophie des sciences, enfin, d'histoire des sciences. Et comment ? Alors que Garcia, lui, Renaud Garcia, il est, comment dire, on en a déjà parlé pour un bouquin qui s'appelait Le désert de la critique. Puis il était aussi présent dans un numéro de la revue Réfraction que Jean-Mathias avait présenté au sujet de l'universel. Et donc c'est quelqu'un qui se revendique de l'anarchisme à différents niveaux et d'un certain anarchisme. Et c'est un livre, comment dire, qui au début m'a intéressé parce que c'était une critique, Jean-Mathias est en train de rigoler, qui, il s'est caché à la technique, là, il a pris son repère. Et... comment dire, parce que c'était quelque chose qui partait de la critique justement de la notion de nature chez Latour et Descola. Et je me doutais bien que je serais sans doute pas d'accord avec les motifs pour lesquels Garcia et Blais critiquent Descola, mais en même temps, bon, moi je trouve ça toujours intéressant de lire des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, et surtout s'ils critiquent d'autres personnes avec lesquelles on n'est pas non plus d'accord. parce qu'on peut voir pour quelles raisons, en quelque sorte, ou en quelque sorte, un petit peu la géographie des désaccords, et ce qui peut motiver je trouve des réflexions qui sont peut-être un peu plus, un peu plus riches que que tout simplement lire des gens avec lesquels on est d'accord.
Okay.
Bon. Donc, Et
donc le titre du livre c'est La nature existe.
Voilà, par-delà règne machinal et penseur du vivant. Alors la nature existe, évidemment c'est la première phrase du bouquin. Ça peut sembler être une espèce de tautologie sans intérêt. Évidemment, elle a un intérêt, elle est surtout polémique, elle est là pour signifier immédiatement quelque chose à l'égard de Latour et Descola, qui vont dire que l'opposition nature et culture est une espèce d'artefact culturel relatif et passager, voué à disparaître. Donc la nature existe, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit de contester plutôt la relativisation de la distinction entre nature et technique, qu'on va trouver chez, Latour et Descola, en particulier, donc, en part de la nature et culture, un gros bouquin de Descola, et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé avec Patrick Dupouet, il y a quelque temps. Et là-dessus, eux, ils vont clairement, là, il n'y a pas de secret, hein, tous ceux qui se connaissent un tout petit peu, Garcia le savent, être plutôt dans un courant anti-techniciste, avec l'opposition, avec la critique. Alors justement, on va peut-être revenir sur les naturiens, sur la critique de l'emprise technique de l'humanité sur la nature et la destruction de la nature par la technique. Et c'est à partir de là, en quelque sorte, c'est leur point d'entrée dans le débat sur arrêter de détruire notre environnement, de détruire nos sociétés, etc., etc. Est-ce qu'il faut renoncer à la distinction de la nature et de la technique, ou est-ce qu'il faut, au contraire, réaffirmer, disons, les droits de la nature d'une autre manière? Donc là, eux, ils vont, en quelque sorte, trouver un peu d'inspiration dans un courant anarchiste du début du XXe siècle, qui est la critique, un courant anarchiste qui s'appelle le courant des naturiens, ou du naturianisme. Et c'est principalement, disent-ils, entre 1894 et 1914 que ce courant existe.
Et ça a été un courant important? Ou est-ce que
totalement
ça
minoritaire. Okay. c'est un courant qui est... tu voulais développer ta question?
Non, pas du
peut-être
tout, c'est bon.
D'accord. Donc ça concernait peut-être 1000, 2000 personnes. C'est un courant qui est vraiment minoritaire, y compris au sein de l'anarchisme.
D'accord.
Mais, malgré tout, c'est un courant qui a eu une certaine, un certain écho au XXe siècle, parce que tu as eu pas mal ensuite de mouvements qui, sans forcément se réclamer des naturiens qui avaient été oubliés, font finalement plus ou moins essayer de faire les mêmes choses.
D'accord. Et donc, eux, ça va être une certaine définition de la nature, ou plutôt du rapport entre la nature et les êtres humains, qui va engendrer en fait des implications écologiques et politiques qui diffèrent de Descola et...
Alors, on ne va peut-être pas aller aussi vite, parce que sur Descola, peut-être un peu après... Bon, l'idée, c'est qu'évidemment, comme tu dis, c'est un rapport entre l'humain et la nature qui va jouer avec la recherche d'une espèce d'harmonie. Et donc, ils cherchent un mode de vie qui serait plus naturel, parce que pour eux, la Belle Époque, c'est aussi, en quelque sorte, quelque chose qui va les... C'est pas si beau que ça, c'est quelque chose qui s'oriente vers un mouvement, enfin, c'est un mouvement d'artificialisation de la vie, avec une activité industrielle, la voiture écrasera le corps vivant, propre comme figuré. La chimie permettra de mettre au point des vaccins pour juguler les effets de maladies, en partie causés par l'activité industrielle fondée sur la chimie, c'est-à-dire sur la réduction de la nature à un ensemble de lois scientifiques. L'expansion urbaine limitera la possibilité d'entretenir une terre, elle accroîtra la dépendance au système d'approvisionnement et l'exploitation du travail ouvrier. La longueur de la chaîne de production des denrées alimentaires facilitera les malfaçons et la vente de marchandises frelatées. Donc ici, la question, c'est pas seulement la nature, c'est qu'est-ce que l'être humain fait de la nature. Et donc, avec l'idée qu'il faut un développement harmonieux et un peu total de l'être humain, mais ce qu'ils vont appeler, ce sera un petit peu un leitmotiv du bouquin de Bled Descola, La nature existe, envisager l'être humain sous les trois aspects, le corps, le cerveau, le cœur. Alors bon, au-delà de l'image, moi j'ajouterais quand même que le cerveau et le cœur, c'est aussi le corps, mais je suis de mauvais esprit. Et c'est là-dessus qu'ils vont penser, qu'ils vont attaquer un petit peu non seulement Descola, je dirais, mais aussi, par exemple, l'industrialisme. Donc ils pensent combattre sur deux fronts. D'un côté ils sont, alors écologie on y reviendra, eux ils se disent pas écologiques parce que le mot, ils pensent que le mot est devenu galvaudé, qu'il a été utilisé au service de trop de causes, et c'est pour ça qu'ils voudraient en quelque sorte se revendiquer de l'héritage des naturiens plutôt qu'écologique, et après ils vont poser deux trois choses à partir de là, par exemple, alors des choses avec lesquelles vous douterez peut-être si vous nous suivez régulièrement qu'on n'est pas d'accord, c'est que par exemple pour Blais et Garcia, les naturiens sont à la fois scientifiques dans leur volonté rationnelle de défendre la force fécondante de la nature. Ah bon, j'avoue que moi la force fécondante de la nature, je peux pas, mais j'ai du mal, disons, avec ce type de formule, mais bon, ça, à la limite, c'est personnel.
On y reviendra.
Les naturiens se disent également anti-scientifiques par leur critique systématique de l'industrialisme. Alors, la science et l'industrie, effectivement, historiquement, sont relativement liées, mais je pense que la situation est quand même légèrement plus complexe que ça, et que c'est compliqué de se dire anti-scientifique parce qu'on n'aime pas l'industrie. J'ai tendance à penser que là, ça relève quand même de la confusion conceptuelle. Mais et qu'il y a des distinctions qui ont déjà été posées par d'autres philosophes et qui, peut-être, nous permettent d'éviter ce type de confusion. Ensuite, je vois bien ce qu'ils veulent dire en termes de, mélange concret et actif dans la société. Et aussi avec l'idée que, justement, par rapport à la gauche classique, les naturiens nous permettent aussi... de pas tomber dans l'idée qu'il faut avant tout défendre l'emploi, le travail face au capital. Donc ça, on est quand même, je pense, plus aussi, mais ça, ils le disent aussi, dans un courant écologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être, entre guillemets, marxiste. Et leur idée encore aussi, c'est au sujet des naturiens, ce qu'ils vont retenir des naturiens, c'est une intuition décisive, disent-ils, le refus du principe libéral selon lequel la nature est une dame ingrate, pingre, dont il faudrait arracher les secrets en combinant toujours plus de moyens. Et le refus simultané de ce que d'autres appelleraient plus tard la gestion collective des nuisances. C'est-à-dire toutes les externalités négatives des entreprises. Et globalement, dame nature n'est pas ingrate, elle donne beaucoup. Et puis, de l'autre côté, on ne va pas non plus essayer de tomber dans une espèce d'exploitation de la nature qui produirait tout un tas de pollution qu'il faudra ensuite gérer. Donc voilà, c'est aussi derrière l'idée d'harmonie. Bon, là encore, j'avoue que ouais, je ne sais pas.
Mais est-ce que peut-être tu peux revenir sur qu'est-ce qui les oppose dans la vision de la nature à, bah, à un Descola, quoi.
Alors ça, je ne suis pas encore venu, donc je vais y venir. alors attends, je regarde d'autres abricoles si j'ai pas, si j'en ai vraiment fini avec avec les naturiens. Alors par rapport à Descola et et la tour. Bon, eux ils vont déjà saluer le, donc j'en ai dit deux mots avant, ils vont saluer le travail de Patrick Dupouet qu'on avait présenté il y a quelque temps ici sur justement peut-on se passer du concept de nature, et, une question à laquelle Dupouet répondait non en critiquant Descola et la tour, mais eux ils vont s'opposer justement au boulot de Dupouet en disant que un des soucis c'est que Dupouet lui reste en quelque sorte partisan du rationalisme scientifique et de la possibilité d'une connaissance scientifique et du fait que bon ben voilà, ce qu'il nous faut c'est quand même une connaissance scientifique de la nature, et pour eux ça c'est faire trop de concessions à l'industrialisme, et ils pensent que c'est une vision de la nature qui est trop limitée, qui est une vision technique de la nature. D'accord ? C'est-à-dire, on va réduire la machine, la nature à une espèce de machinerie qui fonctionne d'après des lois mécaniques que l'on peut comprendre. Et il n'arrête pas de défendre tout au long du livre l'idée d'une nature qui serait devenir mouvement incessant, apparition et disparition, génération et corruption. C'est-à-dire que c'est du Aristote, t'inquiète pas. ça peut sembler étrange au début, mais en fait, bon, c'est une conception de la nature qui va être plus, à mon sens, alors peut-être qu'ils n'utilisent pas du tout le mot, donc je pense qu'ils hurleraient sans doute s'ils m'entendent leur attribuer, mais moi que je qualifierais assez facilement de vitaliste. Avec l'idée quand même que, d'une certaine manière, pourquoi vitaliste, peut-être, il faut justifier dans la mesure où eux-mêmes n'emploient pas ce terme, ou dans la mesure où ils n'arrêtent pas d'insister sur une définition de la nature qui serait irréductible à la physique, à la chimie, à la biologie. Ce qui est quand même la revendication fondamentale du vitalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constante dans la nature, de constante mesurable, dans la vie plutôt que dans la nature. Et donc, rabattre la nature sur la vie, ça me pose aussi problème, parce que quand même l'essentiel de la nature, c'est pas la vie, il n'y a rien. La vie, c'est une toute petite partie de la nature, de rien du tout. Mais bon. Et donc, il y a ce désaccord, si tu veux, sur la place de la science. Et leur désaccord sur la place de la science dans la compréhension de la nature se fait, de mon point de vue, je pense que Jean-Mathias là, il s'est planqué en studio, mais je pense qu'il serait sans doute d'accord. Et après, des arguments qui sont alors, un peu toujours les mêmes, peu importe, s'ils sont vrais, ils sont vrais, s'ils sont faux, ils sont faux. Je dirais que la nature, c'est le devenir, et que la science, elle ne saisit que la vision morte de la nature. Ça, j'ai l'impression de voir des portes bergsoniennes enfoncées avec vigueur. Du type, voilà, on n'a pas saisi l'instant, on n'a pas saisi la nature dans ce qu'elle a d'unique, et on va calquer sur elle des espèces de schémas qui sont, tout faits, et qui nous permettent pas de comprendre le papillon. Le papillon du scientifique, c'est le papillon qui est mort dans sa boîte. C'est pas le papillon vivant qui volette entre les fleurs et qui va manger du caca de temps en temps. Car il me semble que
et dans ce cas-là, est-ce qu'on s'éloigne tant que ça d'un la tour et la vie ben d'laboratoire
justement. Ah, ta question est d'une pertinence exceptionnelle. Parce que justement, une des choses qu'ils vont reprocher dans leur premier chapitre, le bouquin est constitué de trois chapitres, il se lit assez bien. Si ça vous intéresse, malgré que certaines de mes critiques acerbes, vous n'avez pas besoin d'être un philosophe aguerri pour le lire. C'est constitué de trois chapitres qui sont, assez brefs, plutôt assez bien tournés. Au-delà des désaccords, je dirais philosophiques de principe, c'est un livre qui se lit bien. C'est que, justement, d'après eux, le problème de Descola et de la tour, c'est qu'en abolissant, mais ça, je pense que c'est assez, Descola et la tour n'ont pas volé cette objection qui est relativement légitime. C'est qu'en abolissant la distinction entre nature et culture, t'abolis la distinction entre nature et technique, et qu'au bout d'un moment, tu vas faire, tu vas pouvoir dire que la nature aussi c'est la technique, puisqu'il n'y a pas de différence. On va faire une pause musicale, et puis on va revenir plus en détail là-dessus.
Très bien. êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, c'est Michel qui vous présente un livre de Garcia et Michel Blais, La nature existe, paru à l'échappée en 2025, février 2025. On vient d'écouter un livre de Tom Hollingston, de Tom Hollingston and the Local Jerks, la fête de l'éclatement de la carotte sur un bâton, morceau choisi par José.
Voilà, Tom Hollingston, glorieux guitariste de No Means No pendant de nombreuses années.
Voilà, et Michel était en train de nous expliquer en quoi le rejet de la nature comme entité indépendante pouvait mener à une forme d'acceptation de l'artificialisation. Ou alors,
tout à fait ça. Je reprends, j'ai été trop vite, je pense, la fois précédente. C'est que Blais et Garcia vont reprocher à Latour et Décola de vouloir en quelque sorte critiquer la civilisation occidentale techniciste en abolissant la distinction entre nature et culture, en disant la distinction nature-culture, c'est une distinction qui est relative, qui est historique, etc. Ça, c'est le truc des tours et la cola. De la tour et des colas. Décolatours. Les décolatouriens. Et en revanche, eux, Blais et Garcia, comme c'est des anti-technicistes, ils tiennent à garder la différence entre nature et technique, entre nature et culture. Et ils reprochent finalement à Décolatour de l'abolir et d'aboutir à une confusion. Ce qui fait que c'est pour ça que j'avais autant développé la critique qu'ils ont pu faire de Dupuis, à qui ils reprochent de concevoir la nature de manière physicaliste et techniciste, en fait. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, mais Latour et Décola, en réalité, ils ont la même conception de la nature. C'est que c'est indistinct avec la technique, c'est un mécanisme. Et eux, ils veulent garder un concept de nature qui soit indépendant, je dirais, de la science. Mais le souci, c'est que quand t'es indépendant de la science, après, c'est dans quoi tu vas tomber, peut-être. Et alors là, il y a une petite opération philosophique qui mériterait d'être étudiée plus longuement, c'est que ils vont remettre Latour et Décola dans le sillage philosophique de Simondon, qui a écrit un livre le milieu d'existence des objets techniques. Je dois mélanger les mots là. Du mode d'existence des objets techniques. Et ils vont dire, pour Simondon, qui est un philosophe de la technique, la technique forme une espèce de milieu quasiment vital dans lequel les choses se connectent, s'interconnectent. Et pour eux, Latour et Décola sont des espèces d'héritiers de Simondon qui, justement, lui aussi faisait de la technique quelque chose de vivant, comme certains font faire du vivant quelque chose de technique.
D'accord.
Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ne citent pas Bergson, parce que chez Bergson, tu as des choses qui vont un peu dans ce sens-là, et qui vont directement plutôt à Aristote. Mais, j'aurais tendance, évidemment, mais ça c'est toujours le jeu de renvoyer les gens dos à dos. Moi j'aurais tendance à les renvoyer eux dos à dos avec Latour et Décola pour le rejet de la connaissance scientifique de la nature. Mais peut-être plus intéressant et plus polémique, qu'il faudrait passer à la deuxième partie du bouquin qui, à certains niveaux, est absolument scandaleuse. C'est-à-dire que, du fait de leur rejet de la technique et en particulier du mouvement d'artificialisation du vivant, Garcia était amené à prendre des positions où il est opposé par principe à toute procréation assistée médicalement. Et donc là-dessus, il arrive sur justement cette idée de dans son chapitre 2, c'est nature, naissance et reproduction artificielle de l'humain. Et là, j'avoue que
est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi en fait il est contre ça? Enfin, qu'est-ce qui
C'est mal. C'est pas la vie vivante jaillissant de la vie vivante. Ils rejettent la science et la vision scientifique de la nature, mais au bout du compte, et ils essaient de s'en défendre, mais ils s'en défendent d'une manière très très particulière, ils aboutissent à une vision religieuse de la nature. Même s'ils vont dire oui, mais c'est pas n'importe quel christianisme. Nous, par exemple, ce qui nous embête dans la procréation assistée, c'est pas comme la droite. La droite, ce qui les embête, c'est qu'il n'y a pas de papa. Nous, c'est qu'il y a de la technique. Bon, ok les gars, si vous voulez, mais là-dessus, justement, je pense que en réalité, ils sont, et je pense que l'écriture du bouquin le montre beaucoup, ils utilisent, c'est un truc qui m'a frappé, ils utilisent énormément d'adjectifs qui t'indiquent ce qu'il faut penser de la chose qu'ils sont en train de décrire. Un livre qu'ils aiment bien, c'est un beau livre. Et sinon, comment dire, les choses bien, elles sont vivantes. Les choses mal, elles sont mortes. Et donc, là, pour moi, on est presque plus dans le pamphlet que dans le, comment dire, que dans l'essai philosophique. Et je trouve ça quand même, au-delà du truc politique avec lequel je suis totalement en désaccord. Parce que après, bon, tu vois, par exemple, alors bon, je vais y venir après là-dessus, mais c'est, par exemple, ils vont dire des choses du type il faut aller plus loin au sens des voilà. Alors pour vous donner une idée du style quand même, la nature, la source latine nous renseigne. Nature vient de nascor qui signifie naître, croître, grandir. Le philosophe de la nature, selon Lucrèce dans son De Rerum Natura, dit ce qui peut naître ou non. La nature, quant à la nature, elle est ce qui crée, accroît et nourrit tous les êtres à partir de la matière, des corps générateurs et des semences des choses, en quoi elle les résorbe à nouveau après la mort. La naissance est donc jaillissement, émergence au sein de la nature. Mais pour l'homme qui se pose la question, quelle est la nature qualifiée par ce surgissement? Elle n'est pas le grand tout inclusif, elle est ce par quoi et contre quoi l'humain advient à lui-même. Et là, j'ai l'impression d'être dans la sacristie. Ils vont dire, la naissance interprétée philosophiquement, alors là, pour moi, l'adverbe philosophiquement n'a aucun sens, et non plus en tant que simple événement biologique. C'est-à-dire qu'il faut donner une espèce de sens en plus à la naissance. Et un sens, évidemment, qui va être donné par la philosophie, renvoie à la nature comme un être, un être riche de possibles, traversé par une tension créatrice. Comme si, en la nature, tenue dans ses plis, la vie cherchait sa manifestation en pleine lumière. Donc, alors, à mon avis, la référence à Simondon pour court-circuiter, comment dire, plus ou moins, à mon avis, les vraies références de Décolla à la tour, qui vont plutôt être du côté de Heidegger, d'une certaine interprétation de la philosophie grecque et de la venue à l'être. Je pense que là, Simondon, il sert de, comment dire, il sert de diversion. Parce qu'en vrai, ils ont plus ou moins les mêmes, comment dire, il y a tout un tas de choses qui sont communes, et en particulier cette espèce de, comment dire, de mysticisme de l'être que eux, ils vont reporter sur la vie. Et donc, bon, il y a tout un tas de pulsions vitales, évidemment, ils font allusion à un truc. Et après, comment dire, ce qui est, attends. Ouais, et ensuite il va y avoir tout un passage, qui sont quand même à mon avis, très très problématiques. C'est que ce qu'ils vont dire, c'est que justement pour eux tout ce qui va constituer un rapport technique au corps, c'est une façon de justement faire disparaître cette vraie vie, la vraie vie des êtres vivants, parce qu'il y a pas mal de de répétitions comme ça, du type le vivant dans son milieu vivant, qui sont à mon avis là pour enfoncer un petit peu le clou. Ils vont faire une espèce de relecture du de la procréation artificielle, mais donc, ce qui les gêne, c'est qu'il y a des espèces d'ingénieurs des enfants. Vous voyez ?
Oui, donc on retombe sur une vision un peu techniciste.
C'est ça, donc ça, ils veulent pas. Et donc, ils refont le truc de Amandine, la célèbre bébé éprouvette française. Une autre qui était née, Louise Brown. Et ouais, quand même, j'ai envie de me... Ça pose une question, quoi. Louise Brown et Amandine, elles sont moins vivantes que les autres ? C'est quoi, c'est des zombies?
Est-ce qu'ils définissent à un moment concrètement ce qu'est le vivant, ou est-ce que ça reste un peu mystique comme
c'est le jaillissement.
C'est le jaillissement.
C'est le jaillissement, c'est bien.
Oui.
Ouais, c'est comme les carottes. C'est vivant, c'est bien. Je vous ai donné un petit peu le thème musical, quoi. Et ensuite, à partir de là, évidemment, donc, c'est ce qu'ils vont appeler la fabrication des enfants. Et après... évidemment, là-dessus, pour eux, ils y voient en quelque sorte l'achèvement de l'industrialisme, l'achèvement de la volonté de puissance de l'être humain sur la nature, l'exclusion de l'aléa dans la vie, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on veut plus prendre de risques, on ne s'expose plus à la nouveauté, On est dans un vieux film là, qui s'appelait Bienvenue à Gattaca, où d'une certaine manière, voilà, les parents font contrôler le truc. Et alors, le point d'orgue, c'est ce qui me fait penser dans les récits de propagande à ce qu'on appelait les, comment dire, les récits d'horreur où on racontait les affreusetés qu'avaient pu faire les soldats ennemis pour jeter le discrédit sur eux. Et il raconte comment une éthicienne, une spécialiste de philosophie et d'éthique à l'université d'Oslo, a pu faire une espèce d'expérience de pensée en disant on sait que, par exemple, une femme qui est par exemple, voilà, une femme qui est morte cérébralement. Ça s'est sans doute déjà produit, il y a un accident, une femme est enceinte, elle est morte de manière cérébrale, on maintient son corps en vie jusqu'à ce qu'elle accouche.
Oui.
D'accord, bon. Le bébé peut naître, parce que la mort cérébrale, c'est pas la mort de tout l'organisme, mais l'organisme peut continuer à fonctionner si on fait ce qu'il faut. Et eux, ils voient une espèce de film d'horreur dans le fait que, justement, on pourrait profiter de ce fait pour, par exemple, inséminer des femmes qui n'étaient pas enceintes, mais qui étaient mortes cérébralement.
Oui.
D'accord. Et l'éthicienne dit, le seul truc qu'il faudrait qu'on ait, c'est le consentement préalable. En gros, c'est que la femme en question ait dit, voilà, ben, si jamais j'ai un accident et que je suis morte cérébralement, j'accepte de porter l'enfant d'un ou d'une autre.
Pour eux, ça, c'est la vision que ça peut engendrer. C'est la perspective horrifique que ça pourrait engendrer.
C'est ça.
Okay.
C'est la perspective, pour eux, d'un bébé zombie.
Mmh.
Parce que, évidemment, l'idée que le corps de cette femme qui est cérébralement morte soit vivant d'un point de vue biologique, c'est pas du tout suffisant. Elle est morte cérébralement.
Mmh.
Et après, ils vont encore plus loin dans l'horreur. C'est que cette éthicienne dit qu'on pourrait peut-être même faire développer des bébés dans des foies masculins. Et c'est le chaos, c'est affreux. Mais comment peut-on imaginer des choses pareilles ? Donc là, il y a beaucoup d'adjectifs hein, dans tout ce passage, évidemment, parce que les adjectifs, c'est bien. Au fil d'une lecture éprouvante, on découvre donc que le éprouvante, oui, Jean-Mathias est mort de rire aussi. Au fil d'une lecture éprouvante, on découvre donc que le seul véritable problème à régler à ce sujet serait celui du consentement qu'il faudrait obtenir en toute clarté avant la mort cérébrale de la patiente. Pour le reste, il serait rationnel du point de vue de l'utilité d'élargir cette possibilité à toutes celles et à tous ceux qui considèrent qu'il est trop risqué de faire croître un fœtus dans le ventre d'une femme vivante. Et l'adjectif vivant est aussi très très important. Et donc, quelques impressions dérangeantes relevant d'émotions archaïques telles que le dégoût de prolonger l'état d'un mort vivant devront être surmontées pour mettre en œuvre des technologies de ventilation augmentée afin d'assister le cœur. Donc ici, heureux mort-vivant libéré de la douleur, ça c'est la femme qui porte le bébé alors qu'elle est morte cérébralement, qui soulageront, donc je pense que heureux mort-vivant libéré de la douleur, c'est peut-être bien que les femmes souffrent, je sais pas. Ouais, sans doute pas, non, il le dirait peut-être pas, mais quand même c'est... tu enfanteras dans la douleur, j'y reviendrai après. là-dessus. qui soulageront de fait les employeurs de tout scrupule juridique. Ah, oups. Là, on se rattrape. Tu vois, c'est quand même un petit peu anti-capitaliste. C'est quand même un peu capitaliste, quoi. Si c'est des femmes mortes qui font les enfants, ça veut dire que les femmes vivantes, elles pourront travailler. Et que les employeurs sont super contents. Mais là, on est un petit peu dans un, comment dire, dans un scénario, disons,
délirant.
Catastrophe, délirant, qui est peu, comment dire, qui me semble peu. Peu intéressant. Et peu pertinent politiquement, disons.
Et justement, qu'est-ce que... Alors, peut-être que la question est trop hâtive, mais...
Oui.
Par rapport à ça, qu'est-ce qui tire comme conclusion sur... enfin, politique. Quel enjeu politique ils mettent derrière je ne sais pas, pour la protection de la nature, pour ce genre de choses-là. Comment ils se positionnent par rapport à ça?
Alors, je vais y venir après. Attends, je vais trouver un petit passage qui peut répondre à ça. Leur idée, c'est de trouver un rapport. Alors, tu vas voir, c'est politiquement très très précis, parce qu'il s'agirait de trouver un rapport harmonieux entre l'homme et la nature, et donc un travail qui serait, alors, contre le travail abstrait capitaliste. Mais ça, je vais y arriver après. C'est un travail concret. Voilà, un petit adjectif, où chaque geste et chaque acte trouvent leur sens. Un travail aux antipodes de celui qu'impose l'ordre du technique, labeur abstrait c'est mal, et aliénant, centré sur la seule extraction ou le seul accaparement de la force de travail de chacun afin de créer du profit. Donc ils vont dire, ce serait, ça c'est un travail contre la nature, c'est le travail capitaliste, alors que eux ils sont évidemment pour un travail vrai, concret et émancipateur.
le travail des naturiens. Donc ils sont pour le travail qui est bien, ils sont contre le travail qui est mal.
Oui, donc à aucun moment ils définissent l'un de ces adjectifs. Ils précisent l'un de ces adjectifs.
À mes connaissances, non, parce que en fait, un de leurs objectifs quand même, il est quelle heure là ? On a encore un petit peu de temps. C'est dans le cadre d'un débat. Évidemment, ils se sont fait tomber dessus, parce que comme ils étaient contre la reproduction assistée médicalement, ils se sont fait tomber dessus par les milieux LGBT, en plus. Et donc là, il y a quand même, ils arrivent à consacrer 3-4 pages pour se défendre des méchants trans qui les ont traités, qui les ont insultés.
Réactionnaires.
Voilà, de réactionnaires, voire d'extrême droite. Et là, pour le coup, c'est quand même assez, assez drôle, parce que... drôle ou triste, je sais pas, parce que finalement ce qu'ils reprochent, alors ils s'en prennent essentiellement aux queers, et donc et ils disent que la plupart des gens finalement refusent de critiquer la technique, en particulier technique de naissance assistée, parce qu'il faudrait pas diviser la famille de gauche. Et donc en gros il faut parce que les milieux queer auraient queer pourquoi pas, après tout, cuir. C'est bien moustache. Le cuir aussi, cuir moustache. En gros, les thèmes queer auraient cuir. Ce qu'il ne faut pas diviser, celle de cette gauche dite radicale, au sein de laquelle les thèmes queer ont pris de plus en plus d'ampleur en une dizaine d'années, d'abord par le noyautage en règle des organisations militantes. Comment dire ? Donc en gros, ce serait la faute des queers si la gauche n'a pas pris conscience du risque technologique, ou si en ayant pris conscience du risque technologique et du risque d'artificiation du vivant, c'est la faute des queers si la gauche n'ose pas le dire haut et fort que elle est contre l'insémination des femmes mortes qui donnent naissance à des bébés zombies.
D'accord.
Donc bon, et après ils vont quand même c'est quand même étonnant, quoi. Ils vont dire, ils attaquent Donna Haraway, la théoricienne du cyborg. Bon, pourquoi pas. Sauf que ils vont dire, voilà, comme l'a souligné une des innombrables, genre elles sont pleines, d'accord, elles sont vachement pleines, quoi. Il y a une armée de docteurs queer aux États-Unis, évidemment, qui viennent des États-Unis, une des innombrables docteurs en queer studies qui peuplent les campus américains. Alors, on va couper là-dessus avant d'être envahi par une innombrable armée de docteurs queer américains et puis à moustache et puis on terminera.
Je n'ai pas sommeil mais que je suis fatigué. Le destin ne m'a pas aidé, je suis pauvre et je n'ai pas de clé. Tous les mois je vois mon argent, je sais quand faut payer l'électricité, le gaz, le téléphone, le chaud et puis l'eau froide, sans compter la mousse, t'as plus qu'à le manioc, oignon et agneau. La télé boulot que je dois rembourser, les bijoux de ma femme et ma montre dorée que j'ai acheté au rabais dans le couloir du métro. Le pire c'est que je n'ai pas d'argent fiché. Le coiffeur de ma fille qui veut se faire maîtriser pour ressembler à une dame sans argent de poche, c'est ça aussi. Et puis aussi le lave-vaisselle avec le 12 programme, le lave-linge, le séchoir aussi, mais il faut quand même repasser. Et ça prend beaucoup de temps. Oui, vraiment, beaucoup de temps. Mais le pire de tout, c'est la voiture que Marc Alexandre m'a laissée. Faut payer la vignette et réparer le moteur, ça me coûte des ronds. Oui, vraiment beaucoup de ronds. Transporter le loyer, la journée n'a pas commencé. Je n'ai pas sommeil, mais que je suis fatigué. Le destin ne m'a pas aidé, je suis pauvre, je n'ai pas de vie. Tous les mois, je vois mon argent qui coupe, faut payer les flics. C'est le gaz, le téléphone, le chaud, les flics. Faut pas monter la bouffe, la bucale, manio, pognon et agneau. Beaucoup de ronds, oui, ça me coûte beaucoup de ronds. Beaucoup de ronds, oui, ça me coûte beaucoup de ronds.
Vas-y.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous êtes sur Jeudi Noir et ce soir, Michel vous présente un livre, La nature existe, par-delà le règne machinal et penseur du vivant de Michel Blais et Renaud Garcia, paru aux éditions de l'Échappée en 2025, février. Voilà, donc Michel était en train de nous expliquer la vision... anti-techniciste et finalement plutôt réactionnaire, ce qu'on disait de ces auteurs qui se revendiquent néanmoins d'un anarchisme naturien.
Oui.
Donc peut-être qu'on peut revenir.
Donc ils dénoncent certaines dérives, mais je suis pas sûr qu'ils y échappent parce que comme le soulignait Jean-Mathias pendant la pause, un éléphant dans la pièce qui est pas du tout abordé dans le truc, c'est le droit à l'avortement. C'est-à-dire que à partir de là, ils n'ont aucune raison de refuser le droit à l'avortement, ces gars-là. En plus du reste, avec lequel déjà, je pense qu'on peut dire que nous, on n'est pas d'accord. Il y a le droit à l'avortement qui se pose, parce qu'après tout, c'est une intervention technique sur le corps humain pour l'empêcher de donner naissance à un beau bébé vivant qui jaillit. Là-dessus, il y a quand même un petit souci. Et le truc, quand même, qui est... donc, il y a la référence à Aristote qui, à mon sens, pose problème. C'est quand même une vision de la nature qui n'a, à mon sens... qui est morte, quoi. Ouais, c'est intéressant pour les historiens de la philo. Si on veut comprendre la nature aujourd'hui, Aristote, il nous dit pas grand-chose, en réalité. Il nous dit quelque chose de la conception qu'avaient les Grecs de la nature. Pas plus. Et ensuite, un autre truc qui est quand même marquant, c'est qu'ils essaient de répondre aux objections qui leur ont été faites au sujet, est-ce qu'ils ne seraient pas des vieux catho-réacs ? Et bon, ce que je vous ai dit, par exemple, de ce qu'ils racontent des queers, pourrait nous inciter clairement à penser que ce sont effectivement de vieux cathos ou de jeunes catho-réacs. Puisque, après tout, quand on parle quand même des innombrables docteurs en queer studies qui peuplent les universités américaines, je sais pas, ils sont contents que Trump soit en train de fermer toutes les universités américaines dans lesquelles il y a ces innombrables docteurs en queer studies. On peut se demander. Mais j'en doute. Je pense pas qu'ils iraient là. Mais, quand même, pour écrire ça. Enfin bon. Et ensuite, ils vont essayer de se défendre en gros, on va leur dire, ils vont essayer de se défendre du fait de l'antrisme queer aussi. Là, je tombe sur cette expression. Fatigue. Donc, ils essaient quand même de se défendre de l'accusation d'être d'extrême droite, mais aussi du fait qu'on leur dise, mais en fait, vous êtes des cathos.
Et comment ils font?
Ils distinguent, ils disent que not all Christians. Tous les chrétiens, il y a christianisme et christianisme, évidemment. Et donc... Et là-dessus, en ces matières, si on veut bien comprendre le christianisme, il faut dire, et là je les cite, le concept d'incarnation s'avère central. Là, j'avoue que le livre a failli me tomber un peu des mains. C'est un des moments où le livre a failli me tomber des mains. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Incarnation. Okay.
Mais la tour, c'est pas si mal, finalement.
Il est catho aussi. Mais c'est peut-être une lutte intra-catholique, en fait. Et donc, eux, ils vont justement opposer en quelque sorte la dimension. Donc, ils vont dire qu'il y a un mauvais christianisme qui est à l'origine en partie de la crise écologique. Là aussi, ils seraient d'accord sans doute avec Latour, avec la dimension désincarnée du récit de la Genèse, avec son injonction à croître, multiplier et soumettre les différentes espèces et la terre elle-même. Et donc, il opposait sa dogmatique chrétienne, que nos anthropologues du vivant qualifieraient à juste titre d'anthropocentrée, la figure hérétique. Donc, si c'est hérétique, je pense que c'est bien. Parce que les hérétiques qui sont libres, d'accord, de saint François d'Assise. Ah. Le sage Dombry avait quant à lui conservé de son passé de troubadour, les troubadours, ça doit être bien aussi. La mélodie du chant de la nature dans une veine poétique païenne illustrée par son cantique du frère soleil.
Et donc, tu la connais la chanson ?
Toi, tu la connais ? Moi, je l'ai. Elle est citée juste après. Hein. Et donc, c'est une ode au bon Dieu et, comment dire, au fait que. Et donc, il y a un autre christianisme. Il y a un christianisme qui nie le corps et qui opprime l'âme. Et il y a le christianisme de Saint François d'Assise qui, lui, va justement glorifier le corps et la nature. Et donc, c'est le bon christianisme, j'imagine. Et donc, et qui vont essayer d'opposer en partie, justement, même à au pape actuel, là, dont j'ai oublié le nom, François, parce que pour eux, justement, alors attends, c'est quoi ça Ah oui, parce que bien sûr, d'une certaine façon, suprême hérésie, c'est eux les hérétiques, les contorsions relevées dans la théorie queer au sujet de la critique des biotechnologies. Parce que ce qu'ils reprochent au queer, c'est en quelque sorte de soutenir le biotechnique tout en prétendant critiquer le capitalisme, alors que pour eux, c'est un même truc. Et donc, de leur point de vue, les théories queer se livrent au même genre de contorsion, finalement, que l'encyclique papale de François, Laudato si. Et donc bon là c'est pareil, c'est un jeu polémique de on renvoie les comment dire vous avez quelqu'un qui vous reproche quelque chose et vous le renvoyez à son adversaire et vous dites que finalement il occupe la même position que cet adversaire. Bon, c'est une figure classique du débat d'idées. Et là le souci c'est qu'en fait bon après il cite Michel Henry qui est un phénoménologue de droite qui lui aussi a été très très comment dire marqué par l'incarnation. Et donc, finalement, on peut se demander, et donc évidemment, bah, ils vont revenir à la transcendance. C'est-à-dire que c'est quand même une espèce de pas de danse où on a l'impression qu'on va retomber quand même sur tout un tas de figures relativement déplaisantes de la rhétorique réactionnaire, puisque, évidemment, le monde capitaliste, le monde techniciste, c'est un monde qui est nihiliste parce qu'il met toutes les choses à plat et il va réduire le corps vivant de la maman vivante dont un bébé vivant sort en jaillissant à finalement un corps biologique qui produit juste d'autres corps. Et ça, c'est insupportable. Il faut me remettre de la transcendance là-dedans. Parce que la transcendance, c'est sans doute... mais il y a la bonne transcendance, attention, oui. Il y a la mauvaise transcendance, c'est celle qui nie les corps et qui opprime les âmes. Et puis il y a la bonne transcendance, celle de Saint François d'Assise, celle qui va glorifier le corps et qui désigne... Alors ça, j'adore ce genre de formule qu'ils ont trouvé chez Michel Henry. En un sens radical et le seul acceptable, pourquoi ? S'il s'agit en effet de l'absolu, transcendance désigne l'immanence de la vie en chaque vivant. Voilà, donc évidemment, là, on est encore, dans la phusis, dans la nature grecque qui jaillit. Bon, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe, si ce n'est totalement en colère. Et donc, ouais. Après, bon, évidemment, la vie vivante,
Et la naissance comme venue dans la vie.
Que c'est des curés, oui, je pense que c'est des curés. Là, on est clairement, alors c'est la vie vivante, ouais, bon. Parce que je pense que bien ce que ça peut être que la vie morte. C'est-à-dire quand j'ai affaire à ce genre d'expression dans un truc, je comprends bien que la vie vivante, c'est le truc dont on veut dire que c'est bien. Mais à quoi tu l'opposes finalement, à quoi tu contrastes ça pour dire que c'est bien? La vie morte, donc Amandine, née dans une premier bébé éprouvé de France, c'est la vie morte.
Bah oui.
C'est un zombie. Oppose ça à la vie vivante. Bon. Fatigue. Tu avais une autre question ? Il est 25. Alors, il termine sur un truc sur nature, temps et travail. C'est le dernier chapitre. Qui d'un point de vue logique, je trouve, est pas forcément très très bien relié au reste. On voit pas trop, on a l'impression que c'est un petit peu rajouté de force. Et ça va être une espèce d'apologie pour le bon travail qui s'oppose au mauvais travail. C'est le travail concret, le travail de la nature. Et donc là, ah oui, quand même, ça c'est. Quand même, il fallait le rappeler. Dans le bon travail, ça c'est encore une figure qui ne rate pas et qu'on retrouve. Le truc des machins positifs. Ah oui, ah, quand même, il faut que je vous lise ça. C'est... Alors, cependant, cet advenir par lequel s'impose un jaillissement dans le devenir est aussi un advenir de la vie jaillissante, de la vie vivante, comme l'annonce le verset 4. Donc ça, verset 4, c'est l'évangile selon saint Jean. Puisque par son énoncé, celui-ci confère tout à la fois le salut et le sens de la vie. La vie devient vivante. Au sujet de Jésus, du Logos, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bon, après se dire anarchiste là-dedans, j'ai du mal, j'avoue. Et la figure du travail concret, du travail réel, du travail auprès de la nature, je vous le donne en mille, c'est le paysan.
Ah bah oui.
Le paysan qui, lui, est bien sûr proche de la nature. C'est un éloge, un petit éloge de la paysannerie. Donc, quoi de que trouver de plus simple que de revenir au sens du fer réel, contrairement, j'imagine, au fer fictif, quand vous faites des choses, mais pas vraiment. Ouais, aux activités elles-mêmes accomplies concrètement, dans le cadre de la vie concrète, donc il y a concrète déjà deux fois, c'est pas mal, avec ou sans empressement, parce que la lenteur c'est bien, pourquoi ne pas reprendre ici les mots de Pierre Bitoun et Yves Dupont à propos du travail paysan dans leur beau livre, voilà un petit adjectif, ça mange pas de pain, le sacrifice des paysans. Donc le paysan c'est quoi? C'est l'homme de la valeur d'usage, de l'espace limité, de la lenteur du temps et de l'acceptation de la puissance de la nature et de la succession des saisons. Par là aussi, le paysan apparaît étranger à quelques-unes des valeurs cardinales du développement capitaliste productiviste et de l'éthos d'homo consumeris et connecticus. Donc, la terre ne ment pas, comme disait l'autre, mais voilà, la nature existe, et voilà, le catholicisme aussi. Il n'y a pas beaucoup de paysans, lui. Ah, je sais pas, mais...
Donc c'est un livre que tu recommandes à la lecture?
Pas du tout, absolument pas. Bon, je peux pas vous interdire de le lire, hein, quoi, mais évidemment, mais je pense que c'est plus une espèce de pamphlet réactionnaire qu'un livre de philosophie. J'ai été plutôt déçu parce que je pense que la critique qu'ils font de La Tour et des Colas est relativement superficielle. Et comment dire, et peut-être en partie de mauvaise foi, ça se discutait, ça j'en sais rien. Maître Lucie Mondon dans La Tour et des Colas. Alors que dans tous les cas, on a affaire quand même, je pense, à des cathoréacs qui ont réussi à s'introduire à gauche. C'est délicat. Enfin voilà, donc non, je recommande, j'avoue, je recommande pas.
D'accord.
Donc on va terminer sur un autre morceau, sujet des carottes.
Früh am Morgen schießen die Karotten aus dem Boden und versammeln sich zu ihrem Ballett. Sie schwingen ihre Besen in die Luft und drehen sich im Kreis. Jetzt stellen wir uns alle in eine Reihe und tanzen das Karottenballett. Tanzen das Karottenballett. Eins, zwei, drei. We'll be right back. Buben, orange Mädchen, alle auf die erste Position.
Out of it,